Marie-Virginie Klein, autre sujet, je le disais, à l'international, c'est cette crainte au Proche-Orient, avec cette escalade, évidemment, qui nous fait craindre le pire.
Oui, ça nous fait craindre le pire. Je vais me permettre de commencer par une petite analyse sémantique des différentes déclarations politiques sur ces attaques, parce que ça veut vraiment dire tout. D'abord, certains politiques, comme Emmanuel Macron, qualifient cet épisode d'attaque. Mmh. C'est assez, en fait, c'est une forme de, un peu de minimisation du fait. Mmh. Quand on voit en face Joe Biden, qui lui parle tout de suite d'attentat terroriste. Mmh. Et c'est intéressant aussi dans les médias de lire cette sémantique. Certains utilisent vraiment le mot attaque, d'autres le mot attentat. Et rien que l'utilisation de ces mots, c'est déjà une lecture de l'interprétation des interlocuteurs en question. On peut dire aussi la même chose sur le mot. Il y a certains emploient le mot mort, d'autres emploient le mot victime. Là encore, on lit un certain engagement. Ce qui est très impressionnant dans cet attentat ou dans cette attaque, tout dépend de ce qu'on en pense au fond de soi, c'est que ça a été fait à un jour, pendant un jour saint, et que en matière de symbolique et de violence, c'est une attaque extrêmement violente, mmh, à l'égard des Israéliens, et ça en fait presque, il y a eu une attaque aussi à l'encontre des Palestiniens quelques jours avant, mais en termes de symbole, c'est fou comme cette attaque prend beaucoup plus de poids que celle qui a été effectuée contre les Palestiniens quelques jours avant, justement parce que c'était pendant cet anniversaire de l'Holocauste.
William T.
Enfin, de la fin.
Moi, je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'à partir du moment où vous avez un acte comme ça qui est commis sur un jour symbolique, il est vraisemblable que c'est un message politique.
Surtout que c'est près d'une synagogue.
Près d'une synagogue, donc je pense qu'on peut qualifier ça d'attentat. Si Emmanuel Macron ne tient pas forcément les mêmes mots que Joe Biden, c'est surtout parce que la position française essaye d'être beaucoup plus impartiale que la position diplomate est impartiale que celle de la position américaine, dans la mesure où la
qui
France
est pro-israélienne.
Les États-Unis sont pro-israéliens et la France a toujours été partisan, et c'est la ligne officielle, d'avoir les deux États, et, donc Palestine et Israël. Je pense ensuite, après la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que vous avez un risque d'escalade du conflit qui peut déboucher à un risque de conflit beaucoup plus global ? Il y a des pour et des contre. Pour l'instant, je pense qu'on se dirige plutôt sur un cadre d'escalade localisé entre la bande palestinienne et la bande israélienne. Est-ce que ça peut déboucher sur beaucoup plus large? Je ne suis pas sûr, pour différentes raisons. Le premier point, c'est qu'en fait, la situation n'est plus la même qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. C'est-à-dire que les pays du Golfe ont changé de position vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire qu'ils sont davantage pour Israël et surtout contre l'Iran que sur une logique arabe-occident. Je pense que c'est un des points qui est très intéressant. Le deuxième point, notamment, qui est intéressant, c'est aussi que l'Iran n'a pas forcément les mêmes capacités à pouvoir soutenir dans la durée la Palestine qu'auparavant, dans la mesure où ils font face à une crise interne. Et on l'a vu depuis le décès ou l'assassinat de Rassem Soleimani avant la crise sanitaire, ils n'ont pas forcément quelqu'un pouvoir exporter les guerres de la Révolution, tenir le Hamas, le Hezbollah aussi efficacement qu'avant. Là où il y a un risque, par contre, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, c'est que la position américaine et européenne est beaucoup moins forte dans la zone qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait un risque d'escalade, vous aviez soit les Américains capables d'intervenir en disant « bon voilà, les Israéliens, vous arrêtez ». Cette fois-ci, les relations entre Netanyahou et Joe Biden ne sont pas au beau fixe, dans la mesure où Netanyahou a mis un gouvernement qui était plutôt très conservateur, en tout cas très religieux. Et en plus, il y a un autre point, c'est que la Russie, qui pouvait faire office d'arbitre, ce qui a été le cas notamment lors du cas de Daesh, et hors circuit, dans la mesure où ils sont concentrés sur l'Ukraine. Donc je ne sais pas qui serait capable de dire aux personnes « arrêtez ». Le risque d'escalade, parce que vous risquez d'avoir un conflit beaucoup plus global. Est-ce qu'on a un risque de troisième guerre mondiale? Je ne pense pas à l'heure actuelle. Par contre, est-ce qu'on a un risque de conflit géocalisé sur toute la région? C'est possible, avec d'un côté ceux qui sont sur l'arc chiite, c'est-à-dire Liban, Hezbollah, Hamas, Irak, Afghanistan éventuellement, et Iran, et de l'autre côté, les sunnites qui soutiendraient de facto l'Israël pour affaiblir la position iranienne.
Donc si ce conflit, et on espère qu'il ne commencera pas, mais s'il commence, on aura ça en plus de la guerre en Ukraine, on aura, et c'est pour ça que vous parlez de Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on aura deux conflits qui se superposent et qui, en réalité, n'ont pas forcément de lien l'un avec l'autre.
Ma théorie, c'est ce que nous, on a écrit en janvier 2022 avant la guerre en Ukraine, c'est que le risque de Troisième Guerre mondiale est très faible, hormis sur un point spécifique, le détroit entre la Chine et Taïwan sur cette question spécifique. Il n'y a quasiment aucun risque de conflit, de guerre mondiale, parce qu'il n'y a plus autant d'intérêt, d'interdépendance entre tous les acteurs. Par contre, ce qu'on risque d'avoir, c'est ce qu'on assiste, c'est un retour des empires avec des conflits de régions, avec des puissances qui se battent pour le contrôle d'une région spécifique, la Russie et l'Ukraine sur la zone de l'Europe de l'Est, entre la Russie et d'autres pays sur la zone du Caucase notamment, avec ce qui se passe en Arménie, en Azerbaïdjan, notamment dans la rivalité avec les Turcs, et sur la question du Golfe, entre les pays sunnites qui s'allient de facto avec les Israéliens pour affaiblir la position chiite tenue par l'Iran.
Un mot là-dessus, Marie-Véronique Klein ?
Oui, un mot. Je trouve que l'impression générale qu'on a face à ce conflit, c'est qu'il n'y a pas réellement deux puissances qui s'affrontent, puisqu'on a l'impression qu'il y a aucune puissance nulle part, avec d'un côté le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui promet des mesures immédiates et appelle aux Palestiniens à ne pas se faire, à ne pas se faire justice eux-mêmes. Mmh. Et d'autre côté, on a le mouvement islamiste du Hamas qui revendique ça comme une.
Il appelle aussi les Israéliens à ne pas faire justice eux-mêmes,
oui,
hein, parce qu'en fait, il y a eu un allègement du port d'armes pour les Israéliens, parce que normalement c'est évidemment très très codifié. Là, bon voilà. Et en même temps, il dit c'est à la police et à l'armée de faire, de réguler et non pas à vous-même. Voilà.
Voilà, et donc il dit que c'est une réaction au crime de l'occupation israélienne contre notre peuple palestinien. Donc en fait, on a un petit peu l'impression que malgré ces appels au calme, à ne pas se faire justice soi-même, finalement, ces deux puissances ne sont plus des puissances et ne pourront pas forcément être écoutées par tous ceux qui sont censés les suivre.